Radio Bar 36e, troisième partie, avec notre invité. Rebonjour Marie-Christine Terranchet.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Roquefort-des-Corbières et vous êtes depuis quelques semaines également conseillère départementale, non plus générale, départementale, succédant d'ailleurs à votre père qui lui avait été conseiller général. Et on va y revenir là-dessus. Vous êtes conseillère départementale avec Monsieur Martin de la Nouvelle et vous êtes des espèces rares parce que vous êtes les seuls, le seul binôme de l'opposition dans l'autre, ce qui fait de vous des espèces rares. Faut-il en conclure que vous êtes des espèces protégées ? Ça, on le verra tout à l'heure.
Protégées par qui ?
Voilà. On s'auto-protège.
Alors, vous êtes maire donc de Roquefort. Des femmes maires, il y en a encore peu, malgré
hélas,
la parité, malgré tout ce qu'on dit. Comment vous êtes venu ? Comment êtes-vous tombé dans la marmite de la politique, en quelque sorte ?
La marmite.
Enfin, pour moi, le fait d'être maire, c'est après un parcours. Donc déjà, j'ai toujours été dans le milieu associatif et toujours très attachée à un village, le village de Roquefort-des-Corbières. Donc ça, c'est déjà une obligation, une priorité, parce qu'après, le métier de maire est assez difficile, assez prégnant. Il faut être présent.
C'est pour ça qu'il faut tomber dedans quelque part.
Et donc, il faut vraiment aimer ça pour continuer. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, milieu associatif. Ensuite, en 2008, le maire de Roquefort-des-Corbières, en l'occurrence Christian Théron, m'a demandé de venir dans son équipe municipale. Et donc, j'ai demandé à être conseiller municipal. Donc, il souhaitait peut-être que je sois adjoint, mais quand je m'engage, je veux savoir un peu où je vais. Je veux savoir si j'arriverai à donner tout le temps qui est nécessaire pour la mission qui m'est confiée. Donc, je préférais être conseiller municipal, voir si j'avais le temps de travailler, d'y travailler, si ça me plaisait. Parce que ça aurait pu ne pas me plaire. Et effectivement, ben, ça m'a plu. Donc,
Vous avez fait vos classes.
Voilà, j'ai fait mes classes. J'avais au-dessus un maire qui avait les compétences nécessaires pour me faire évoluer et m'apprendre un peu le métier. Et donc ensuite, en 2014, je me suis présentée avec beaucoup de conviction et une volonté de faire et de bien faire. Sachant ceci dit, que je pense aussi que si le maire avait décidé de se retirer, c'est peut-être qu'il sentait que j'avais quelques facilités ou quelques volontés fermes d'arriver à faire quelque chose.
Voilà, mais il a dû être satisfait, votre père, quand même, de voir que vous assumiez la succession, parce que ça, c'est pas évident non plus.
Bon, il faut assumer la succession, assumer le nom aussi, mais ma foi, ça faisait quelques 45 années que je le fréquentais, donc je savais que je trouverais pas de casserole ni de mort dans les placards, donc c'est quand même toujours tout aussi agréable, et puis maintenant, en étant conseiller départemental, je me rends compte que même si ça a été un homme dans l'opposition départementale, il n'en demeure pas moins que ça a été et que c'est un travailleur, que c'est un homme de conviction. C'est pas un tordu et je pense que de fait, beaucoup de personnes le reconnaissent en tant que tel, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Et ça a été quelqu'un de relativement, on disait tout à l'heure, œcuménique, quelqu'un qui a été pas clivant, comme on dit maintenant, j'ai l'impression.
Et disons qu'il y a deux parties. Il y a une partie campagne électorale sur laquelle, eh ben là, on est dans un combat. Il ne faut pas se leurrer. On est là pour gagner quand même. Donc, et pour imposer nos idées, notre volonté. Donc là, c'est un ancien joueur de rugby. Donc sur un terrain, il n'était pas habitué à laisser sa place. Donc les campagnes ont été toujours très pugnaces. Par contre, une fois que l'élection est passée, nous sommes élus pour une population qui n'a pas forcément voté pour nous. Donc derrière, il ne faut pas oublier que nous sommes à la tête d'une mairie et la mairie, elle est valable pour tout le monde. Moi, personnellement, je reçois en mairie régulièrement, le soir, le matin, à n'importe quelle heure, j'allais dire, du jour et de la nuit. Je n'ai jamais demandé à aucun de mes administrés pour quelle personne ils votaient, nationalement, localement, etc. Quoi.
Oui, voilà.
C'est un principe, oui, mais c'est bien que de l'entendre dire par notre invité, parce que souvent, on l'oublie, en fait, les auditeurs ne pensent pas ça.
C'est un principe qui devrait couler de source.
C'est un grand classique, on gagne à gauche ou à droite, et on gère ensuite pour tout le monde, sans aucune exclusive et sans aucun a priori politique.
C'est une gestion quotidienne et c'est une gestion pour tous.
Oui,
donc il n'y a pas de minorité, c'est tout le monde. Et hier encore, par exemple, je recevais des administrations administrée à 20h le premier rendez-vous et 20h45 le deuxième rendez-vous.
Oui, bon, donc voilà. rue de tâche, et comme vous disiez tout à l'heure, il faut aimer ça, faut l'aimer.
Rue de tâche, moi je le vis pas comme ça parce que je le vis tout à fait normalement. C'était un engagement, je savais où j'allais, donc là je me plaindrai pas puisque c'est ce que j'attendais à faire et que je fais.
Et alors aujourd'hui, les maires, enfin les communes sont toutes dans des communautés d'agglomération. Vous êtes dans celle du Grand Narbonne. D'ailleurs, vous êtes porte-parole du groupe d'un groupe d'opposition au sein de cette communauté d'agglomération. Alors beaucoup de compétences ont été transférées des communes vers les agglomérations. On a l'impression parfois qu'il reste plus grand-chose aux communes. Alors dites-moi ce qu'il reste aujourd'hui à un maire à faire et à assumer.
Cimetière.
pas uniquement. Donc on a quand même toute la vie au quotidien. Et puis, même si on est dans une communauté d'agglo, il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir des choses qui se passent pas très bien et sur lesquelles on fait remonter et on est assez prégnant et assez combatif parce que si par exemple on a une problématique avec l'écart, une problématique avec le tri sélectif, etc., ben, il faut réagir rapidement parce que chaque problème est un problème très important pour l'administré. On quantifie pas le problème. La personne qui arrive dans une mairie, elle a un problème. Il faut qu'on règle ça très rapidement et qu'on trouve une solution très rapide.
Et alors, justement, parenthèse, quand vous lui dites « Oui, mais là, je suis désolé, c'est pas la compétence de la mairie, alors, c'est celle de l'agglo », c'est pas facile à
alors,
faire.
Alors, très sincèrement...
C'est impossible.
Enfin, moi, je pense, je suis assez dans la communication et la discussion. Donc, on a mis en place, par exemple, des réunions de quartier. Donc, les premières ont eu lieu dans le courant du deuxième trimestre. Donc, ce qui a été fait, c'est d'expliquer exactement quelles étaient les compétences de chacun.
Exactement.
Jusqu'où on pouvait aller et ce qu'on ne pouvait pas faire, ou sur lequel on passait par d'autres... Donc je pense qu'effectivement, on est dans un millefeuille administratif, etc., qui est surprenant aussi quand on est élu, parce qu'on a des projets, on a une volonté de faire, et on se rend compte souvent que ce qu'on a l'impression de pouvoir faire dans un trimestre, il faut un an pour arriver à le faire.
Vous vous sentez muselé un peu.
Pas muselé, mais quelques lourdeurs.
Empêtré,
voilà,
en tout cas.
Voilà, quelques lourdeurs qui font que on a une volonté d'arriver très rapidement et on piète un peu. Enfin, il faudrait que ça avance plus vite et on se rend compte que ça tournicote des fois un peu trop.
Oui, Michel, une remarque.
Oui, pourtant, Madame le maire, vous avez gagné, faites ces élections départementales avec le vice-président de la communauté d'agglomération, Monsieur Martin, qui est un homme de droite bien connu, qui a voté pour Jacques Bascou. Donc vous êtes très près de lui politiquement, géographiquement et même, je crois, bon, amicalement.
Oui. Hein,
donc les conflits tant qu'il y a, qui puissent en avoir de compétences, peut-être de relations, malgré votre posture de porte-parole du seul groupe d'opposition farouche, effectivement, en fait, à Jacques Bascou, devrait arrondir les angles, non?
Mais je pense que lorsqu'on est sur des conseils communautaires, moi, mes combats, ils sont très simples. Donc je suis effectivement le porte-parole d'un groupe, parce que lors de la précédente mandature, je me suis rendu compte que de ne pas avoir d'opposition, c'était pas non plus la meilleure des solutions, parce que tout se passait sans qu'il y ait véritablement de discussion. Donc le fait d'être dans l'opposition, c'était pour marquer une différence, pour essayer de voir sur un prisme différent certains sujets. Maintenant, qui dit opposition ne dit pas systématiquement négation. Donc moi, je suis pas dans le systématiquement enlever ce que les autres ont fait. Pardon, pour faire autre chose, en disant que nous, on ferait toujours mieux. Moi, il y a des projets qui peuvent être intéressants portés par la communauté d'agglo et sur laquelle je porterai mon soutien. Il y en a d'autres sur lesquels je pose pas mal de questions et je pense que j'interviens suffisamment en conseil communautaire pour prouver que quand j'ai quelque chose à dire, je le fais pas dire par quelqu'un d'autre, quoi. Mmh. Et je me suis rendu compte souvent que des personnes du groupe de la majorité n'hésitaient pas à se retourner en me disant « tu as raison ». Bon, ils votent pas pour autant pour moi, mais... ils avouent que sur certaines analyses, j'ai pas toujours tort.
Oui, donc ils reconnaissent quand même le bon sens nécessaire.
Mais pour moi, on est en termes de gestion. Donc de la même manière que je gère la commune de Roquefort-des-Corbières, c'est pas parce que je change de casquette qu'on peut faire des chèques en blanc systématiquement et sur tous les projets. Je pense qu'on a une obligation de continuer à gérer un bon père de famille. Et c'est vrai que des fois, en tant que maire, on voit au quotidien nos administrés en mairie, on gère notre budget en bon père de famille. Et puis quand on est dans d'autres instances, ben, on signerait un peu plus facilement. Mmh. Et ça, moi, c'est hors de question. Donc, pourquoi acheter un véhicule quand on en a déjà deux? Bon, voilà, ce sont des questions très simples, hein, pas besoin d'avoir Bac plus 20. Mmh. Mais à côté de ça, c'est du quotidien. Et derrière, il y a un poids fiscal. Et moi, je préfère faire des investissements, donc je l'ai indiqué à plusieurs reprises, qui permettent d'avoir un développement économique, parce que derrière, je pense que ça pourra drainer de l'emploi, etc., plutôt que d'avoir des investissements de confort qui ne sont pas forcément indispensables. Mmh.
À propos de projets, il y en a un qui vous a fait rouspéter il y a quelque temps, c'est celui des éoliennes, puisqu'il y a déjà, je crois, des éoliennes sur votre commune. Il y a une ferme photovoltaïque. Vous vouliez étendre apparemment ce parc éolien et on vous a contrecarré. Le tribunal administratif vous a contrecarré.
Oui, suite à une réclamation de la LPO. Donc la problématique que j'ai, c'est qu'effectivement on a 15 mâts éoliens qui pourraient sortir avec un permis de construire qui avait été validé en décembre 2008 et sur lequel après il y a eu des recours et on est toujours en termes de recours. La problématique, comme vous le savez, on parle d'un effet ciseau budgétaire sur les communes avec de moins en moins de dotations et de plus en plus de charges. Derrière, eh bien, quand on a une possibilité d'avoir du financier et avec les fermes photovoltaïques et éoliennes, on a effectivement des rentrées financières pour la commune. Donc une parenthèse sur la commune de Roquefort, ça représenterait à peu près 350 000 euros. C'est 15 mâts. 350 000 euros
par an.
C'était l'investissement réalisé il y a 3 ans sur la commune de Roquefort. Voilà. Donc actuellement, on est plutôt sur un trend de 600 000 euros d'investissement par an, 600 000 euros grâce à 300 000 euros du champ photovoltaïque et des éoliens qui sont toujours présents. Donc quand on a une manne financière et qu'on s'assoit dessus parce qu'il y a un aigle, parce qu'il y a des pipistrelles, ce genre de choses, moi ça me met un peu en rogne, sachant que tout le monde parle d'énergie propre, etc. Et dans chaque groupe, que ce soit communauté d'agglo, que ce soit conseil départemental, on parle de l'éolien, on parle du vert. Et puis finalement, dans les faits, on n'y est pas trop. Quoi.
On parle du plan climat, oui.
Voilà, d'où votre irritation et votre incompréhension.
Mon irritation, elle est régulière.
On va conclure, Marie-Christine Terroncher, sur le département, puisque, on l'a dit, vous êtes élue dans le binôme avec M. Martin.
Tout à fait.
Donc vous êtes, on le disait en tout début, la seule conseillère d'opposition, avec lui étant le seul conseiller d'opposition. Quel est votre comportement là-bas? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'y aller pour rien, en quelque sorte, sachant que vous êtes très minoritaire?
Alors, si on y va pour rien, on va m'entendre. Parce que je suis une convaincue et j'ai des convictions. C'est que le canton de Sigean a un très gros potentiel, quoi. Donc, on a le port de Port-la-Nouvelle sur lequel on doit investir. C'est clair pour le développement. Moi, à l'heure actuelle, quand je reçois des administrés, la première demande, c'est un emploi.
Mais voilà. comme partout.
Donc on a une possibilité de développer le port de Port-la-Nouvelle. Allons-y. On a une possibilité de développer le port de plaisance de Port-le-Cat. Allons-y. On a la réserve africaine. Il faut faire en sorte que cette réserve africaine de Sigean reste sur notre canton. Bon, voilà. Donc là, je pense que si on nous oublie, si le conseil départemental oublie le canton de Sigean, il oublie l'un des cantons le plus en développement du département de l'Aude. Et je trouverais dommage qu'on oublie notre canton.
Voilà, et vous comptez sur les départements pour
ces
choses-là?
Non, c'est compétence région, ça, quand même.
Non, c'est la compétence région. Mais par contre, le département a la compétence des routes. Et pour arriver au port, il faudra des routes.
Donc,
de la même façon.
C'est sur la connectique, en quelque sorte.
Voilà. Donc, moi, je gère à chaque niveau. Donc, chaque niveau est important parce que derrière, c'est une projection moyen terme.
D'où l'importance de la communauté d'agglo, effectivement, du travail qui se fait à l'intérieur de la communauté d'agglo pour justement défendre ces projets.
Tout à fait. Donc, moi, je pense que toutes les pierres sont très importantes pour mener à bien un projet. Et la vision d'Henri Martin, qui a eu une projection à moyen terme donc sur sa commune et sur le canton maintenant, et c'est la raison pour laquelle je me suis associée à Henri dans ce combat, c'est parce que je pense très sincèrement que nous avons une qualité énorme, nous avons des possibilités. Nous oublier, ce serait s'asseoir sur du développement départemental.
Merci Marie-Christine Terroncher. Nous remarquons tout à fait en fin d'émission que c'est la première femme que nous avons à cette émission. Je ne l'avais pas fait remarquer exprès d'ailleurs. Merci encore une fois. Nous espérons que vous êtes la première et que ça ne sera pas la dernière.
J'espère bien aussi.
Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que les femmes mères sont encore relativement...
Sur le Grand Narbonne, je crois que
nous sommes
celles.
Oui, il y a Magali Vert,
Madame Bat, Madame Gouiri, Madame Serda et Madame Durand.
Donc nous aurons, je l'espère, d'autres
voix féminines. Nous serons de plus en plus nombreuses
à ce micro.
Et le conseiller général, départemental, pardon, voilà. Madame Bossis.
Voilà,
donc prochain invité pour ce Radio Barque, ce sera Jean-Marc Alric, ex-anticorps, qui viendra nous expliquer ses déboires et son action.
Le pauvre.
Merci à vous et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.